On est gâtés, on est gâtés.
Oh
on
yes.
Ouais, ça commence à rentrer. Il y en a qui ont faim.
Ça y est, la petite cochonne.
Les 12 jurés qui ont rendu un verdict historique à New York hier font jaser énormément. On a reconnu coupable Donald Trump, l'ex-président des États-Unis, sur toute la ligne. Et ça fait de lui le tout premier président à être condamné au criminel. On a le plaisir d'en parler avec Frédéric Gagnon, qui est directeur de l'Observatoire sur les États-Unis et titulaire de la chaire Raoul Dandurand. Salut Frédéric.
Salut.
Merci d'être là, malgré ton horaire assez occupé aujourd'hui. C'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire des États-Unis, puis on n'a pas connu ça non plus au Canada, qu'un ancien premier ministre se fasse déclarer coupable de quoi que ce soit au criminel.
Non, c'est ça. C'est la première fois aux États-Unis, puis mauvaise nouvelle pour Donald Trump, là, ça a été une décision rapide, unanime, une douzaine d'heures sur un dossier là, qui était pas super facile à saisir, honnêtement. Là. Sur les quatre dossiers au criminel qui pendent au bout du nez de Trump, c'était celui qui était peut-être le plus faible, le plus difficile à comprendre. On sait qu'il y avait Stormy Daniels dans l'histoire, là, cette actrice porno avec laquelle il y a eu, selon ce qu'elle disait, une affaire extra-conjugale en 2006. Mais la cause portait pas sur ça spécifiquement. C'était plutôt sur un paiement qui lui avait été fait en 2016,
ouais.
Et au fond par le biais de Michael Cohen, l'avocat de Donald Trump, et qu'il y a eu falsification de documents, finalement, d'affaires pour cacher ça aux électeurs américains en vue de la présidentielle de 2016. Mais c'est un dossier qui était plus faible que les trois autres là qui pendent au bout du nez de Trump. Son rôle dans les événements du 6 janvier 2021, l'insurrection au Congrès, le fait qu'il a pris le téléphone à un moment donné pour demander aux autorités de la Géorgie de trouver des votes, en guillemets, pour le faire gagner lors des élections de 2020. Puis le troisième dossier, les documents secrets qu'il avait à sa résidence personnelle. Quand je vous dis ça, ça paraît plus clair. Le dossier sur lequel il a été reconnu coupable hier, ben, c'est le plus faible, mais malgré tout, c'est coupable sur toute la ligne.
Oui. Ça va être porté en appel. Est-ce que ça t'a surpris le délai où on a rendu la décision? Puis est-ce que ça t'a surpris aussi que c'est sur les 34 chefs puis qu'on n'ait pas scindé ces chefs-là genre, sur le tiers ou sur le deux tiers des chefs d'accusation qu'on l'ait déclaré coupable ou non?
Bien, sur les 34 chefs d'accusation, en fait, c'était tous des chefs d'accusation qui portaient sur la même histoire. Falsification de documents d'affaires. Et après, il y avait des chèques dans l'histoire, il y avait des différents documents dont on parlait, mais c'était toujours pour la même accusation, finalement. C'est falsification de documents. Et bon, il y en a qui disaient que sur les chèques, les jurés allaient peut-être être un petit peu plus rapides sur la gâchette parce qu'il y a la signature de Donald Trump sur les chèques. C'était très clair. Et finalement, on a décidé d'aller de l'avant avec des accusations sur les 34 documents dont on parlait. Et la rapidité de la décision... Oui, j'ai trouvé ça un petit peu étonnant. Je m'attendais pas à ce que ça dure des semaines, mais je m'attendais plutôt à une décision peut-être aujourd'hui ou en début de semaine prochaine, parce que, bon, vous l'avez mentionné au début, là, c'est historique cette affaire-là, et la décision des jurés, elle peut être très lourde de conséquences pour le pays. Là. Ça risque d'avoir un effet sur l'élection présidentielle du 5 novembre. Ça, c'est ce qu'on va pouvoir vérifier en regardant les sondages au cours des prochaines semaines.
Mais tu as vraiment l'impression, Frédéric, que les fans de Donald Trump vont peut-être aller de l'autre côté ou vont tout simplement ne pas aller voter pour Donald Trump? Tu as l'impression que ça va être une majorité?
Bien, écoute, pour ce qui est des partisans purs et durs de Donald Trump, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peut les faire changer d'idée.
Exact.
Ça, on voit ça dans les sondages, puis je l'ai vu sur le terrain aussi. J'ai participé en février dernier à un rassemblement de Trump à Manchester, au New Hampshire. Je voulais aller voir ça en personne. Et c'était intéressant. J'ai interrogé des partisans de Trump qui disent, au fond, je vais l'aimer pour toujours jusqu'au bout. Je vais l'appuyer jusqu'au bout, peu importe ce qui arrive. Donc, les purs et durs ne changeront pas d'idée. Ceux qui haïssent Trump, ben, l'haïssent encore plus ce matin. Eux non plus ne changeront pas d'idée en vue du 5 novembre. Mais ça va se jouer par cette élection-là va se jouer probablement par quelques dizaines de milliers de votes dans 6 États du pays. Et oui, si ça a un petit effet de, je sais pas, 1%, 2% dans les sondages, ça peut finir par faire la différence. Il y a un électorat qu'on surveille beaucoup aux États-Unis en ce moment. C'est les électeurs qu'on appelle les « double haters ». Donc, ceux qui haïssent, qui détestent et Biden et Trump. Ils sont vraiment... veulent rien savoir des deux candidats. Et ces électeurs-là vont peut-être pas aller voter le 5 novembre, mais peut-être que la culpabilité d'hier va convaincre certains de voter Biden, même si, bon, on l'aime pas vraiment Biden, mais là, on se dit, écoute, je peux pas élire un criminel à la Maison-Blanche, donc je choisis la moins pire des options, je me ferme les yeux, je me pince le nez, je me ferme la bouche, puis je saute. Je vote pour Biden parce que je peux pas voter pour un criminel. C'est peut-être ça qui va finir par faire la différence parce que ça risque d'être une élection extrêmement serrée.
Ouais, ça va probablement être porté en appel, là, cette décision-là, puis on n'en entendra pas parler pendant quelques mois, du moins, même quelques années, certains diront. Est-ce que si Donald Trump redevient président des États-Unis, obtient son nouveau mandat de 4 ans, son deuxième, est-ce que il pourrait se pardonner à lui-même?
Ben, dans ce dossier-là, non, parce que c'était une démarche qui était entreprise par un État américain, là. Ce sont des accusations qui ont été portées dans des cours de l'État de New York.
Donc si ça avait été fédéral, il aurait pu le faire.
Oui. Ouais. Exactement. Le président peut offrir un pardon présidentiel pour des crimes fédéraux. Mais là, il y a tout un débat aux États-Unis aussi à savoir si le président peut s'offrir à lui-même un pardon présidentiel. Donc, Trump dit oui, mais encore là, on est dans la nouveauté, dans l'inconnu, parce qu'il n'y a aucun président qui s'est offert à lui-même un pardon présidentiel. Mais il y a quand même des experts en droit constitutionnel américain qui disent oui, effectivement, si, disons, Trump était reconnu coupable des chefs d'accusation portés contre lui dans l'affaire des documents secrets à Mar-a-Lago, ou dans l'affaire du 6 janvier 2021, là, c'est le département de la justice, c'est le fédéral qui a porté des accusations contre lui. S'il y avait des procès, on ne pense pas qu'il va y en avoir d'ici l'élection là, sur ces dossiers-là, mais s'il y avait eu des procès, s'il y en a d'ici l'élection, qu'il est reconnu coupable de ces crimes-là, sa réélection, ce serait son billet de sortie de prison, en guillemets. Il pourrait, oui, en principe, s'offrir le pardon présidentiel. Et c'est pour ça que ça devient, finalement, cette élection-là, une affaire toute personnelle pour Trump. En étant réélu, il peut se mettre à l'abri, privilège présidentiel oblige, il peut se mettre à l'abri de toutes ces affaires-là pendant au moins 4 ans. Alors après son deuxième mandat, une fois qu'il aura quitté la Maison-Blanche, peut-être que ces histoires-là lui pendront encore au bout du nez. Mais en étant élu président, tu sais, par exemple, il pourrait dire peut-être au département de la justice, une fois revenu au pouvoir, là, on laisse tomber en fait ces deux affaires-là fédérales, Mar-a-Lago et documents secrets, puis mon rôle lors des événements du 6 janvier 2021 au Congrès des États-Unis. Mais on est vraiment dans l'inconnu. C'est pour ça que cette élection-là, elle est extrêmement importante pour les Américains américaines, mais extrêmement importante pour ce gars-là aussi en particulier.
Mais c'est intéressant quand même, il y a un bout qu'on a passé vite. Tous ces électeurs qui se cherchent politiquement parlant aux États-Unis, normalement, c'est assez divisé. Ils sont assez conquis par la personne qui est à la tête des partis. Est-ce que pour la suite des choses aussi, ça parle hors Donald Trump du contexte politique aux États-Unis?
Oui, ça en dit beaucoup sur l'écœurantite aiguë, je vais dire ça comme ça, de beaucoup de monde à l'égard de ce qui se passe dans ce pays-là, puis à l'égard des politiques de Joe Biden aussi. Là, il y a eu les chefs, enfin, la culpabilité de Trump hier, mais Trump est encore favori. On verra si ça a un effet, mais pour l'instant, jusqu'à hier, il est encore favori pour gagner cette élection-là. Il est en avance dans les sondages dans 5 des 6 États clés de l'élection, que sont la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, l'Arizona, la Géorgie, le Nevada. Ce sont vraiment les 6 États à surveiller. Et il y a peut-être juste au Wisconsin où Biden est en avance en ce moment. Ça veut dire quoi, ça? Il y a beaucoup de gens qui sont tannés de Biden, qui est à 37 % d'appui au pays, un des présidents les plus impopulaires de l'histoire depuis qu'on fait des sondages là-dessus. Pourquoi? Parce que l'inflation est encore élevée. Les gens veulent de bons emplois dans toutes sortes de secteurs. Les emplois ne reviennent pas assez vite à leur goût. Il y a la frontière américano-mexicaine qui est un gros enjeu aussi. Le nombre de traversées de migrants non documentés à la frontière américano-mexicaine a explosé dans les derniers mois. Et il y a beaucoup de gens qui se demandent, mais qu'est-ce qu'il fait Biden? Qu'est-ce qu'il va faire pour régler ces problèmes-là? Le conflit israélo-palestinien aussi, on a vu les manifestations sur les campus universitaires américains. Donc, il y a toutes sortes de questions sur lesquelles les Américains en ont assez. Et ça fait en sorte que oui, il y a encore des gens, malgré tout, qui souhaitent que ces choses-là se règlent rapidement, qui voient que ça se règle peut-être pas aussi vite que Biden l'avait promis en arrivant à la Maison-Blanche et qui se disent, ben, pourquoi ne pas redonner à Trump une deuxième chance, peut-être sur l'économie, il sera meilleur que Biden, peut-être que sur la frontière américano-mexicaine, il sera meilleur que Biden aussi. En tout cas, c'est ce que pensent encore beaucoup d'électeurs dans ce pays-là, malgré tout ce qu'on a vu hier.
Pour un observateur comme toi, Frédéric, je rappelle aux gens ton prénom et ton nom de famille. Frédéric Gagnon, qui est directeur de l'Observatoire sur les États-Unis, titulaire de la chaire de recherche Raoul Dandurand. D'avoir une bébite comme Trump, ça doit être un peu plus excitant qu'une bébite comme Joe Biden?
Bien, c'est sûr qu'avec Trump, c'est le show. Ça je te l'accorde, là, c'est spectaculaire, c'est rocambolesque, c'est paranormal, puis écoute, ça fait piquer. Mais ça fait piquer là, puis c'est comme ça. Il a fait son entrée en scène en 2015 en vue de la présidentielle de 2013. Et puis bon, il y a eu la vidéo Access Hollywood, il y a l'affaire Stormy Daniels, il y a eu deux procédures de destitution, il y a eu les tweets, il y a eu bon, c'est un show. Moi, je m'attendais pas à devoir suivre la carrière d'un politicien de ce genre-là. Tu n'en es pas un, finalement. Hein. Il se vantait en 2016 de ça. Je suis pas un politicien, je suis un novice en politique et je veux faire les choses autrement. C'est exactement ce qu'il fait. Et bon, pour avoir vu Biden et Trump en personne dans des rassemblements politiques, Biden en 2020, je l'avais rencontré aussi à Manchester, New Hampshire. En 2024, c'était Trump, comme je le disais tantôt. Évidemment, c'est deux styles extrêmement différents, là. Avec Trump, ça ressemble à un show rock. Avec Biden, c'est plus calme, c'est moins excitant, oui, probablement. Mais Biden, comme politicien, a ses forces aussi. Peut-être moins charismatique, peut-être moins d'énergie lorsqu'il donne un discours. Une fois que le discours est donné, il va faire le tour de la salle, il va se promener dans la salle où il est, puis il va serrer la main de tout le monde. Il serre la main des personnes une par une, leur demande quelle est leur histoire, tout ça, leur dit qu'il va penser à eux, essayer de gouverner pour régler leurs problèmes. Donc, deux styles extrêmement différents, mais ce que beaucoup de gens reprochent à Biden en ce moment, c'est peut-être d'être un petit peu trop invisible, trop discret, et ajouter à ça toutes les préoccupations à propos de son âge. Donc, il a 81 ans, il aurait 86 ans à la fin d'un deuxième mandat. Il y a des gens qui se demandent s'il a l'énergie, s'il peut continuer, s'il serait capable de servir pendant tout un deuxième mandat. Et ça, en passant, là, si on regarde les sondages, c'est vraiment une des grandes préoccupations. Là. Il y a une grande majorité d'Américains qui pensent qu'il est trop vieux pour continuer. Ça lui nuit.
Tu sais, toi et moi, on a probablement rencontré des gens de 90 ans qui étaient encore au niveau cognitif très, très, très allumés. Dans son cas, il a montré quelques défaillances dans les derniers mois. Même, je pourrais dire, pendant son mandat, il a montré quelques défaillances au niveau cognitif. Puis on voit que c'est pas nécessairement lui qui run à la Maison-Blanche. On s'imagine probablement que ça doit être une équipe de gens qui l'épaulent constamment pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur qui soit commise. De le revoir là pendant 4 ans, j'ai l'impression que ça va être un mandat qui va être extrêmement triste pour les gens qui trippent sur Joe Biden. Puis, en tant qu'observateur, toi, de ton côté, est-ce que tu vois des jeunes qui commencent à pousser du 30, du 40, du 50 ans qui pourraient peut-être un jour aspirer, après le mandat soit de Biden ou encore de Trump, qui pourraient aspirer à devenir président des États-Unis? T'en vois-tu un ou une à ce moment-là?
Ouais, il y a de la relève dans les deux partis. Du côté démocrate, oui, il y en a beaucoup de jeunes qu'on va voir lors des prochains cycles électoraux. Il y a Josh Shapiro, qui est le gouverneur de la Pennsylvanie. Il y a Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie. Il y a Gretchen Whitmer, la gouverneure du Michigan. Mais je vous nomme ces personnes-là. Vous les connaissez peut-être, mais il y a très peu d'Américains et d'Américaines qui savent de qui on parle lorsqu'on mentionne ces noms-là. Gavin Newsom est plus connu, là, c'est clair, mais c'est un peu ça le problème du Parti démocrate en ce moment. C'est qu'il y a de la relève, mais on ne l'a pas assez vu encore, cette relève-là. Elle n'est pas très connue. Et pour gagner une élection présidentielle, il faut avoir un name recognition. Il faut être connu aux quatre coins du pays pour avoir une visibilité, une notoriété nationale. Et Trump et Biden sont peut-être les deux politiciens, en tout cas. Dans le cas de Trump, c'est clair. Là, Trump, c'est probablement la personne la plus connue et reconnue aux États-Unis et à travers le monde. Et Biden aussi, c'est un nom extrêmement connu en politique. Il est là depuis plus de 40 ans. Il a commencé en 1973 au Sénat. Et ça, ça se bâtit une notoriété. Du côté démocrate, il y a des jeunes qui sont en train de s'en bâtir une, mais ça va prendre encore un petit peu de temps. Mais ce parti-là n'aura pas le choix de commencer à réfléchir à ça, parce que en 2028, de toute façon, si Biden est réélu, il va devoir quitter. Et s'il perd en 2024, le 5 novembre, ben là, on va déjà les voir, là, ceux et celles que j'ai mentionnées. Et du côté républicain, ben les primaires républicaines de cette année nous ont permis de voir Nikki Haley, nous ont permis de voir Ron DeSantis et d'autres. Et c'est de ce côté-là qu'il faudra regarder. Quand Trump ne sera plus là, mais je ne sais pas honnêtement quand Trump va disparaître du décor républicain. Ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'on dit on va assister à la chute de Trump. Il ne pourra pas traverser cette épreuve-ci, cette épreuve-là. Mais pourtant, il est toujours là, bien en contrôle de ce parti-là. Et il est le meneur dans la course en vue de la présidentielle de novembre.
Frédéric, un gros merci pour l'entrevue de ce midi. Je vous souhaite un beau vendredi et un super de beau week-end.
Merci à vous aussi. Vous m'avez donné envie de manger une poutine tantôt.
Une petite cochonne.
Ben, quand tu seras de passage à Québec, tu viendras faire un tour en studio et on t'en promet une de la fromagerie Victoria.
Avec plaisir.
Salut, bye-bye. L'excellent Frédéric Gagnon, qui est directeur de l'Observatoire sur les États-Unis, titulaire de la chaire Raoul d'Endurant, auditeur qui me dit par texto 418-971-1021, c'est parce que l'ère Biden, c'est un show de marchette, puis l'ère Trump, c'est un show trash de rock.
C'est bien dit.
Hey, c'est vraiment bien dit, wow!
C'est bien décrit. C'est pour, moi, je vois beaucoup sur Twitter des vidéos de Joe Biden où il est filmé à l'extérieur de son environnement médiatique. Quand il est devant les médias, il ne bouge pas, il est statique, puis il peut lire un texte ou pas, tu sais. Puis quand tu le vois se promener dans la foule, tu vois un homme qui est vers la fin, là. Oui. C'est d'une tristesse. Puis au niveau cognitif, on ne sait pas si pendant 4 ans, ça va tenir. Parce que déjà là, pendant son mandat, c'est difficile. J'ai pas hâte au débat, là. Ils vont probablement trouver des raisons pour pas le mettre en débat contre Donald Trump, là.
Ben, ils vont le faire. Et c'est le 27 juin, c'est prévu. Ils vont le faire.
Mais moi, je suis pas
puis il a dit bien-t'en. Je ne me rappelle pas comment il l'a dit dans les mots exacts.
Désolé, il y a une grippe.
Je pense qu'il va annuler la dernière minute. Mais je ne me rappelle pas c'était comment il l'a dit exactement, mais c'était une histoire. Pour vrai, c'était surprenant pour Joe Biden. Il a genre répondu ah ouais, viens-t'en, mon gars, pour accepter le débat. Il dit je t'attends, mon gars. Une affaire de même, il avait été super, flashy dans sa réponse. Mais imagine-les, les deux, le 27 juin prochain.
Mais Biden, ils n'auront pas le choix de le booster. Tu sais, jusqu'à quel point tu le boostes, là, pour pas le perdre. C'est tout un show. Midi 50, 418-971-1021, 418-971-1021. Qui est notre gagnant ou notre gagnante à la fromagerie Victoria, 50$?
C'est Carl Caron qui repart avec son 50$.
Carl Caron!
OK, ouais!
Il aurait dû être un joueur de mini-pot.
C'est Carl Caron! Birthday!
50$! Fromagerie Victoria.
Et voilà.
Midi 50, on revient.
Marceau, le midi.